Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eddie.
Dans le hall d'entrée stérile et faiblement éclairé de l'hôpital militaire, la mère d'Eddie ouvre le carton blanc et arrange les bougies sur le gâteau en les répartissant de manière égale, 12 d'un côté et 12 de l'autre. Le père d'Eddie, Joe, Marguerite et Mickey Shee l'entourent et le regardent. « Quelqu'un a une allumette ?» murmure-t-elle. Les voilà qui tâtent leur poche. Mickey sort un paquet de sa veste, deux cigarettes tombent sur le sol. La mère d'Eddie allume les bougies. Un ascenseur tinte dans le hall. Un brancard en sort. « Allez, on y va, lance-t-elle. » Les petites flammes se tortillent tandis qu'ils avancent le front et ils entrent dans la chambre d'Eddie en chantant doucement « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ». Le soldat dans le lit voisin se réveille en hurlant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis, quand il comprend où il est, il se laisse retomber, gêné. Une fois interrompu, le chant semble trop lourd à reprendre et seule la voix de la mère d'Eddie, dans un solo tremblant, est à même de continuer. « Joyeux anniversaire, Eddie !» Puis, très vite, « Joyeux anniversaire, Eddie !» Eddie se redresse sur son oreiller. Ses brûlures sont couvertes de pansements et sa jambe est dans une longue gouttière. Posé à côté du lit, une paire de béquilles. Il regarde ses visages et il n'a qu'une envie, s'enfuir. Joe s'éclaircit la gorge. « Tu m'as l'air d'aller bien, » lui dit-il. Les autres acquiescent rapidement. « Bien, oui, très bien. Ta maman a apporté un gâteau, » lui murmure Marguerite. La mère d'Eddie fait un pas en avant, comme si c'était son tour. Elle lui tend le carton. Eddie marmonne « Merci, maman. » Elle jette un regard circulaire. « Où on va le mettre ?» Mickey saisit une chaise. Joe dégage le dessus d'une table. Marguerite déplace les béquilles d'Eddie. Seul son père ne bouge pas. Il reste debout, appuyé contre le mur du fond, sa veste sur le bras, fixant la jambe d'Eddie plâtrée d'un genou à la cheville. Eddie croise son regard. Son père baisse les yeux et sa main effleure le rebord de la fenêtre. Eddie raidit chaque muscle de son corps et tente par sa seule volonté de repousser ses larmes dans leur conduit lacrymaux. Tous les parents abîment leurs enfants. C'est inéluctable. La jeunesse est comme le ver ancien. Elle absorbe les empreintes de ceux qui la touchent. Certains parents maculent, d'autres fêlent. Quelques-uns brisent complètement les enfants en minuscules éclats éparpillés. Impossible à recoller ensuite. Au départ, c'est par négligence que le père d'Eddie l'abîma. Lorsqu'Eddie était bébé, il le prenait rarement dans les bras. Une fois Eddie plus âgé, il ne le prenait que par le bras, par contrariété, plus que par amour d'ailleurs. La mère d'Eddie offrait sa tendresse. Son père, lui, était là pour faire régner la discipline. Le samedi, le père d'Eddie l'emmenait à la foire. Eddie quittait la maison, la tête toute pleine d'images de manège et de barbe à papa. Mais au bout d'une heure environ, son père rencontrait une connaissance à qui il disait « Garde-moi donc le gamin, tu veux bien ?» Et Eddie restait sous la surveillance d'un acrobate ou d'un dresseur d'animaux jusqu'au retour de son père, tard dans l'après-midi, le plus souvent ivre. Pourtant, durant ces innombrables heures de sa jeunesse, qu'il ait été assis sur les balustrades ou accroupi en culotte courte sur les coffres à outils de l'atelier, Eddie n'attendait qu'une seule et unique chose, que son père fasse attention à lui. Il répétait souvent « Je peux t'aider, je peux t'aider ». Mais le seul travail qui lui était parfois confié consistait à ramper sous la grande roue, avant l'ouverture de la foire, afin d'y ramasser les pièces tombées des poches des clients la veille au soir. Son père jouait aux cartes au moins 4 soirs par semaine. On avait mis sur la table de l'argent, des bouteilles, des cigarettes et des règles. Celle à l'intention d'Eddie était simple. « Ne t'avise pas de me déranger. » Il avait essayé à une occasion de rester aux côtés de son père et de regarder ses cartes, mais le vieil homme avait posé son cigare et tonné, en giflant Eddie du revers de la main, « Arrête de me souffler dessus !» Eddie avait fondu en larmes et sa mère l'avait attiré contre sa poitrine en jetant à son mari un regard furibond. Après quoi, Eddie ne s'était plus jamais approché aussi près. D'autres soirs, quand la partie avait mal tourné, que les bouteilles étaient vides et sa mère déjà couchée, les orages de son père pénétraient jusque dans la chambre d'Eddie et de Joe. Il fouillait alors dans les pauvres jouets qu'il jetait contre le mur, Puis il faisait mettre ses fils à plat ventre, enlevait sa ceinture et cinglait leur postérieur en hurlant qu'il gaspillait son argent dans des saletés. Eddie priait pour que sa mère se réveille, mais même lorsque c'était le cas, son père l'avertissait de ne pas s'en mêler. De toute façon, la voir totalement impuissante dans l'entrée où elle tire-bouchonnait sa robe de chambre était presque pire. Le verre, symbole de l'enfance d'Eddie, s'était donc retrouvé entre les mains dures, calleuses, rouges de colère, et il avait passé ses jeunes années à être rossé, fouetté et battu. Ce fut la seconde façon de l'abîmer, les seconds dégâts subis après la négligence, ceux de la violence. C'en était arrivé à un tel point que rien qu'en entendant le bruit sourd des pas de son père, Eddie sentait si ça allait tomber dru ou pas. Malgré tout cela, au fond de lui, Eddie adorait son pater, parce que les fils adorent leur père, même quand ce sont des monstres. C'est comme ça qu'ils apprennent la dévotion. Avant de se consacrer à Dieu ou à une femme, un garçon se consacrera à son père, même si c'est ridicule et totalement inexplicable. Occasionnellement, comme pour attiser de maigres braises, le père d'Eddie laissait un vague orgueil percer tout de même le vernis de son indifférence. Sur le terrain de baseball près de l'école de la 14e avenue, son père, debout derrière la barrière, regardait Eddie jouer. Si ce dernier envoyait la balle à l'autre bout du terrain, son père opinait du chef et Eddie courait alors pour la rattraper, ainsi qu'au baseball, il convient de le faire pour marquer des points. Parfois, quand Eddie rentrait à la maison après une bagarre de rue, son père remarquait ses jointures écorchées ou sa lèvre fendue. Il lui demandait alors « Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre gars ?» Et Eddie répondait qu'il l'avait eu, ce qui lui valait aussi l'approbation paternelle. Quand Eddie avait attaqué ses gamins qui embêtaient son frère, des sales petits voyous selon la mère, Joe, honteux, avait filé se cacher dans sa chambre. Mais le père d'Eddie avait asséné « Ne fais pas attention à eux, c'est toi le plus fort, protège-le. Laisse jamais personne le toucher. » Quand Eddie entra au lycée, il calqua son emploi du temps estival sur celui de son père, se levant aux aurores et travaillant à la foire jusqu'à la tombée de la nuit. Au début, il s'occupait des manèges les plus simples, manœuvrant les leviers de freinage, arrêtant doucement les voitures. Plus tard, il travailla dans l'atelier. Le père d'Eddie voulait voir comment il réglait les problèmes d'entretien. Il lui tendait un volant cassé en lui ordonnant « Arrange-le ». Lui montrait du doigt une chaîne emmêlée en lui lançant « Arrange-la ». Lui apportait un pare-choc rouillé ou du papier de verre en lui disant « « Arrange-moi ça !» Et à chaque fois que la tâche était accomplie, Eddie rapportait l'objet à son père en lui annonçant fièrement « C'est arrangé !» Le soir, ils mangeaient tous ensemble. Sa mère, rondelette et en âge au fourneau la moitié du temps, et son frère Joe, intarissable, son frère dont les cheveux et la peau sentaient les embruns à présent, car Joe était devenu bon nageur et travaillait l'été à la piscine de Ruby Pier. Il parlait de tous les gens qu'il y croisait, de leur maillot de bain et de leur argent. Cela n'impressionnait pas le père d'Eddie. Ce dernier surprit d'ailleurs un jour une conversation entre ses parents au sujet de Joe. « Les bons en rien, sauf à patauger dans l'eau, celui-là », disait son père. Pourtant, Eddie enviait ce frère qui rentrait si bronzé et si propre le soir, alors que ses ongles, à lui, étaient tachés de cambouis, comme ceux de son père, et qu'il l'écurait à table pour tenter d'en enlever la saleté. Il surprit à une occasion son père qui l'observait, et le vieil homme ricana. « C'est signe que t'as eu une dure journée de travail, » fit-il, et il lui montra ses doigts aux ongles sales, eux aussi, avant de les refermer autour d'un verre de bière. Eddie était déjà un adolescent robuste à l'époque, et il se contentait d'acquiescer d'un hochement de la tête. À son insu, il avait amorcé avec son père le rituel du sémaphore, renonçant par là au mot « à l'affection physique. Tout devait se passer à l'intérieur. Il suffisait de le savoir. Refus délibéré de donner de l'affection. Le mal était fait. Et puis, un soir, l'échange s'arrêta net. C'était après la guerre, après qu'Eddie eut quitté l'hôpital, qu'on lui eut enlevé son plâtre, et qu'il fut revenu dans l'appartement familial sur Beechwood Avenue. Son père avait bu au pub voisin, et il était rentré tard à la maison, trouvant Eddie endormi sur le divan. La guerre et ses durs combats avaient assombri et changé l'humeur de ce dernier, qui passait ses journées à la maison et parlait rarement, même à Marguerite. Des heures durant, elle contemplait le carrousel par la fenêtre de la cuisine, tout en frottant son genou malade. Sa mère murmurait qu'il lui faudrait du temps, c'est tout. Mais plus les jours passaient, et plus son père s'énervait. Il ne comprenait pas la dépression. Pour lui, il s'agissait plutôt de faiblesse. « Lève-toi !» hurla-t-il alors en bredouillant. « Et trouve-toi un boulot !» Eddie bougea. Son père hurla de nouveau. « Lève-toi et trouve-toi un boulot !» Le vieil homme vacillait, mais il se dirigea vers Eddie, à qui il donna un coup. « Lève-toi et trouve-toi un boulot ! Lève-toi et trouve-toi un boulot ! Lève-toi et trouve-toi un boulot !» Eddie se redressa. « Lève-toi et trouve-toi un boulot ! Lève-toi !»« Ça suffit !» hurla Eddie, faisant tout à coup fi de l'élancement douloureux dans son genou pour se lever d'un bond. Il regarda avec colère son père, qui n'était qu'à quelques centimètres de son visage, et sentit le mélange d'alcool et de cigarettes de son haleine. Le vieil homme jeta un coup d'œil rapide vers la jambe d'Eddie. Sa voix se mua en un grognement sourd. « Tu vois, tu n'es pas si blessé que ça !» Il recula en titubant pour lui donner un autre coup. Mais instinctivement, Eddie bougea et arrêta le bras de son père en plein élan. D'étonnement, les yeux du vieil homme s'arrondirent. C'était la première fois qu'Eddie se défendait, la première fois qu'il faisait autre chose que subir une raclée qu'il ne méritait pas forcément. Son père contempla son propre poing serré qui avait raté son but, et ses narines se dilatèrent, ses dents grincèrent. Puis il chancela en arrière et dégagea brutalement son bras. Il fixa Eddie avec les yeux d'un homme qui regarde s'éloigner un train. Ce jour-là signala la cassure complète du dialogue entre son fils et lui. Ce fut l'empreinte finale sur le verre d'Eddie, le silence, qui hanta le reste de leur vie. Qu'Eddie circule dans l'appartement, qu'il décroche un emploi de chauffeur de taxi, qu'il se marie ou qu'il rende visite à sa mère, son père demeura silencieux. La mère d'Eddie supplia, pleura, implora son mari de changer d'avis, mais, à travers ses mâchoires serrées, celui-ci se contentait de lui répondre ce qu'il répondait à tous ceux qui effectuaient la même requête. « Ce garçon a levé la main sur moi. » Point final. Tous les parents abîment leurs enfants. Cette vie familiale-ci fut faite de négligence, de violence, puis de silence. Et maintenant, en ce lieu, par-delà la mort, Eddie s'effondrait contre un mur en acier inoxydable et tombait dans un talus de neige, à nouveau blessé par le refus d'un homme dont, aussi inexorable que ce fût, il espérait toujours l'amour. Un homme qui, même au ciel, continuait à l'ignorer. Son père. Le mal était fait. « Ne vous fâchez pas, » dit une voix de femme. « Il ne vous entend pas. » Eddie releva brusquement la tête et vit une vieille dame debout devant lui, pied dans la neige. Son visage était décharné, ses joues affaissées, ses lèvres étaient fardées de rose et ses cheveux blancs, sévèrement tirés en arrière, étaient tellement clairsemés par endroits que l'on apercevait le crâne rose en dessous. Quant à ses petits yeux bleus, ils étaient cachés derrière des lunettes cerclées de métal. Eddie ne se souvenait pas d'elle. Sa robe en soie et mousseline, son corsage à jabot, cousu de perles blanches et agrémenté d'un nœud de velours ras du cou, datait d'une autre époque. Une boucle en strass ornait sa jupe, qui était fermée sur le côté par des boutons pression et des crochets. Son maintien était élégant et ses deux mains étaient posées sur le pommeau d'une ombrelle. Eddie se dit qu'elle avait dû être riche. « Pas toute ma vie, » lui dit-elle en souriant, comme si elle avait suivi le cours de ses pensées. « J'ai été élevée pratiquement comme vous, dans les bas-fonds de la ville, et forcée de quitter l'école à 14 ans. J'ai travaillé, mes sœurs aussi. On donnait toute notre paye à nos parents. » Eddie l'interrompit. Il n'avait pas envie d'une énième histoire. « Pourquoi mon père ne peut-il pas m'entendre ?» lui demanda-t-il. Elle sourit. « Parce que son esprit, sain et sauf, fait partie de mon éternité. Mais il n'est pas vraiment ici, alors que vous, oui. Mais pourquoi mon père doit-il être sain et sauf pour vous ?» Elle réfléchit. « Venez, » lui dit-elle alors. Ils se retrouvèrent tout à coup en bas de la montagne. La lumière du petit restaurant n'était plus qu'un grain de poussière. On aurait dit une étoile tombée au fond d'une crevasse. « C'est beau, non ?» lança la vieille dame. Eddie suivit son regard. Ce visage lui disait quelque chose. Peut-être l'avait-il vu en photo quelque part. Seriez-vous ma troisième personne? C'est à peu près ça. Eddie se gratta la tête. Qui était cette femme? Au moins, avec l'homme bleu et le capitaine, il avait quelques souvenirs de la place qu'ils avaient occupée dans sa vie. Mais pourquoi une inconnue? Et pourquoi maintenant? Eddie avait jadis espéré que la mort lui permettrait de retrouver ceux qui l'avaient précédé. Il avait assisté à tellement d'enterrements pour lesquels il avait ciré ses chaussures noires, ressorti son chapeau, puis fait le pied de grue dans un cimetière, chaque fois hanté par cette question désespérante « Pourquoi sont-ils partis et moi pas ?» Sa mère, son frère, ses oncles et tantes, son copain, Noël, Marguerite. « Un jour, nous serons tous réunis au royaume des cieux, » disait le prêtre. « Mais où était-il alors, si ceci était bien le ciel ?» Eddie détailla cette drôle de vieille dame. Il se sentait plus seul que jamais. « Je peux voir la terre ? » murmura-t-il. Elle fit non de la tête. « Je peux parler à Dieu ?» En permanence. Il hésita avant de poser la question suivante. « Je peux revenir en arrière ?» Elle le regarda furtivement. « En arrière ? Oui, en arrière. À ma vie, à mon dernier jour. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Promettre d'être bon, d'aller régulièrement à l'église ou autre ?»« Mais pourquoi donc ?» Elle semblait amusée. « Pourquoi ?» répéta Eddie. De la main nue qui ne sentait aucune humidité, il donna un coup brutal dans la neige qui n'était de toute façon pas froide. « Pourquoi ? Parce que cet endroit ne signifie rien pour moi. Parce que je ne me fais vraiment pas l'impression d'être devenu un ange, des fois que ça devrait être l'impression que j'ai. Parce que je n'ai pas non plus l'impression que tout soit très clair. Je n'arrive même pas à me rappeler ma mort, impossible de me souvenir de l'accident. À part ces deux menottes, cette fillette que j'ai essayé de sauver, vous voyez, j'ai essayé de la sortir de là. J'ai dû saisir ses mains et c'est là que je... » Il frissonna. « Suis mort ?» compléta la vieille dame en souriant. « Que je suis décédé ? Que j'ai fait le grand saut ? Que j'ai trépassé ?»« Ben que je suis mort, » répondit-il dans un souffle. « Mais c'est tout ce que je me rappelle. Ensuite, il y a eu vous, les autres, tout ça. On ne pourrait pas avoir la paix quand on meurt ?»« Vous l'aurez quand vous serez en paix avec vous-même, » lui répondit la vieille dame. « Non, » fit Eddie en secouant la tête. « Non, c'est pas ça. » Il pensa lui raconter l'agitation quotidienne qu'il vivait depuis la guerre. Les cauchemars, l'incapacité de s'enthousiasmer pour quoi que ce soit, et ces fois où il allait sur les quais tout seul et regardait le poisson ramené dans les grands filets, perturbé parce qu'il se retrouvait dans ces créatures impuissantes qui s'agitaient, piégées et incapables de fuir. Il ne lui confia rien de cela et préféra plutôt dire « Je ne voudrais pas vous vexer, madame, mais je ne vous connais même pas. Moi, si. » Eddie soupira. « Ah oui? Et comment ça? »« Eh bien, si vous avez un moment... » Elle s'assit, bien qu'il n'y eût rien pour s'asseoir. Elle s'appuya simplement sur l'air et croisa les jambes d'une manière distinguée en se tenant bien droite. Sa longue jupe s'étalait en plis réguliers autour d'elle. Un souffle de vent passa et Eddie perçut la légère senteur d'un parfum. Comme je vous l'ai déjà dit, j'étais employée autrefois, serveuse au Seahorse Grill, près de l'océan où vous avez grandi. Peut-être vous en souvenez-vous. D'un signe de tête, elle désigna le petit restaurant et Eddie se rappela alors tout. Bien sûr qu'il s'en souvenait. C'est là qu'il prenait son petit déjeuner. Une gargote, ils appelaient ça, qui avait été démolie il y avait des années de cela. « Vous ?» dit Eddie presque en riant. « Vous avez été serveuse au Seahorse Grill ?»« Ah, eh oui, » répondit-elle fièrement. « Je servais leur café au docker et les œufs au bacon au débardeur. J'étais jolie fille à cette époque, et j'avais repoussé plus d'une proposition. Mes sœurs me gourmandaient. « Pour qui tu te prends à faire la difficile ? Tu ferais mieux de te trouver un homme avant qu'il ne soit trop tard. » Puis, un beau matin, le plus bel homme que j'ai jamais vu franchit la porte. Il portait un costume à rayures blanches et un chapeau melon. Ses cheveux noirs étaient bien coupés et un sourire permanent s'inscrivait sous sa moustache. Il inclina la tête quand je le servis et je m'efforçai de ne pas le dévisager. Mais quand il parla avec son collègue, J'entendis son rire sonore et sûr de lui. À deux reprises, je le surpris qui regardait dans ma direction. Au moment de régler son addition, il me dit qu'il s'appelait Émile et demanda à me revoir. Je sus sur le champ que mes sœurs n'auraient plus à me harceler pour que je me décide. Émile me fit une cour enivrante. Il en avait les moyens. Il m'emmena dans des endroits où je n'étais jamais allé, m'offrit des vêtements dont je n'avais jamais même rêvé, me fit goûter des mets jusque-là impensables dans ma pauvre petite vie. Émile avait fait fortune très vite en investissant dans les madriers et l'acier. C'était un dépensier, un preneur de risques. Quand il avait une idée, il fonçait. Je suppose que c'est ça aussi qui l'avait attiré vers une pauvre fille comme moi. Il détestait les gens nés dans l'opulence et préférait ce qui ne serait jamais venu à l'esprit des gens raffinés. Comme par exemple, parcourir les villes côtières. Il adorait les attractions foraines qu'on y trouvait, la nourriture salée, relevée, les bohémiennes et les diseuses de bonne aventure, les bonimenteurs et tout le tralala. Et nous aimions tous deux la mer. Un jour, assis sur le sable, et alors que la marée roulait doucement à nos pieds, il me demanda en mariage. Débordante de joie, je lui répondis oui, et nous entendîmes des voix d'enfants jouant dans l'océan. Émile fonça à nouveau, et jura que bientôt il construirait une fête foraine rien que pour moi. Afin de capturer le bonheur de ce merveilleux instant et que nous puissions rester éternellement jeunes. La vieille dame sourit. Émile tint parole. Quelques années plus tard, il passa un accord avec la compagnie des chemins de fer qui cherchait comment augmenter le nombre de voyageurs le week-end. C'est d'ailleurs ainsi que la plupart des fêtes foraines américaines ont été construites. Eddie hocha la tête. Il était au courant, contrairement à de nombreuses personnes, qui les croyaient bâties par des elfes en sucre d'orge. En fait, c'était simplement de bonnes affaires pour les compagnies de chemin de fer qui les avaient installées au terminus de leur ligne, afin que les citadins aient une raison de se déplacer le week-end. « Vous savez où je travaille ?» disait souvent Eddie. « Au terminus de la voie de chemin de fer, voilà où je travaille. » Émile, continua la vieille dame, construisait un endroit merveilleux, avec une jetée imposante pour laquelle il utilisa le bois et l'acier qu'il possédait déjà. Puis vinrent les attractions magiques, courses, manèges, promenades en bateau et petits trains. Il y avait un carrousel importé de France et une grande roue provenant d'une exposition internationale en Allemagne, ainsi que des tourelles, des clochetons et des milliers de lumières incandescentes tellement brillantes que la fête était visible de nuit depuis le pont des navires au large. Émile embaucha des centaines de travailleurs, d'ouvriers municipaux, de forains et d'étrangers. Il amena des animaux, des acrobates, des clowns. La touche finale fut l'entrée, qui était vraiment grandiose, au dire de tout le monde en tout cas. Quand ce fut fini, il m'y emmena, les yeux couverts d'un bandeau. Et quand il l'enleva, je découvris ce fabuleux endroit. La vieille dame fit un pas en arrière. Elle regarda Eddie curieusement, comme si elle était déçue. « L'entrée, dit-elle, vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous êtes jamais posé de questions sur le nom de l'endroit où vous avez travaillé, vous et votre père ?» De ses doigts gantés de blanc, elle toucha discrètement sa poitrine, puis elle s'inclina comme si elle se présentait avec une grande cérémonie. « Ruby, c'est moi !»